Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour.
Et de Ben.
Bonjour à tous.
Au sommet de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons des chiffres de vente très suspicieux de la Xbox One. Nous vous enchaînerons ensuite sur les Game Awards. Nous évoquerons... Le premier scandale de la semaine, voilà, parce qu'il y en aura un second ensuite. Je retire tout ce que j'ai pu dire de bien sur Rockstar dans le précédent podcast, et vous verrez pourquoi. Nous allons ensuite nous attaquer au cas de la semaine. Ubisoft, Assassin's Creed Unity, tout ça. ATH, je crois que tu es très remonté.
Oui, un petit
peu. On va compter sur toi, hein, tu vas partager toute ta haine, tout ça, tout à l'heure, parce qu'il y a eu un certain nombre de choses là qui ont été assez problématiques sur la sortie de ce nouveau Assassin's Creed. Je pense que vous êtes tous au courant, donc voilà, on va pas épiloguer, mais ça va saigner, il va y avoir des morts, voilà. Pas de jeu du moment cette semaine, du coup je vais vous faire un petit point culture sur un manoir, vous verrez ça tout à l'heure. Ok, c'est parti. Donc nous allons commencer par les ventes de la Xbox One. Alors pourquoi j'ai dit des ventes suspicieuses, n'est-ce pas? Parce que, communiqué de presse chez Microsoft cette semaine, tout ça, attention, les gens, succès des packs Xbox One aux États-Unis parce qu'ils ont fait un pack spécial, c'est ça il me semble, la DH?
Oui, en fait, ils ont fait un pack spécial à $349 jusqu'au 3 janvier en fait, vendu en bundle. Notamment avec Assassin's Creed Unity et Black Flag en plus, ou bien si tu prends Sunset Overdrive, il y a aussi un pack Call of Duty qu'ils ont mis en vente pour booster les ventes de la Xbox One, notamment sur Thanksgiving et pour les périodes de Noël en fait.
Voilà. Communiqué de presse, tout ça, on nous explique que oui, c'est formidable, ça marche super bien. Oui, sauf qu'en fait, ce sont les chiffres de distribution.
Ouais, c'est ça en fait.
Et que je ne sais pas pourquoi, chez les constructeurs, il y a cette idée que... Alors certes, pour eux, c'est des trucs vendus, vu que les magasins leur ont acheté les consoles. Mais ça veut pas dire pour autant que tout ce qu'il y a en magasin va être vendu. Moi, ça me paraît être une évidence, mais bon, voilà.
Il y a aussi la compilation Halo Master Chief qui est sortie. Mmh. Et on sait que aux États-Unis notamment, c'est là où est-ce qu'ils font leurs plus grosses ventes. Donc je pense que quand même, la Xbox One... ça va être bénéfique pour les publics américains parce que là pour l'instant ça s'intéresse vraiment qu'à ce territoire là donc ça va aider à se vendre un petit peu mieux, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment une communication de marketeurs en fait, parce qu'ils disent que la console se vend bien pour inciter les gens à dire que la console est hype, on en a vendu tant donc il faut que je l'achète. C'est pour ça que toutes ces informations là il faut les prendre avec des pincettes et surtout avec un peu de recul. On attendra les ventes officielles de la machine et non pas les ventes distribuées pour savoir si la console se vend vraiment mieux que la PS4 sur cette période là en fait.
Ce qui serait pas mal après quand même, hein, parce que moi je vois d'un très mauvais œil que Sony se retrouve tout seul sur le marché des consoles, enfin voilà. On sait ce qui arrive quand Sony, n'est-ce pas, devient leader, hein.
Bah oui, surtout que Microsoft, ils ont attaqué sévère avec une baisse de prix de $50 en moins si tu prends avec un bundle spécial. Sony, pour l'instant, ils ont pas annoncé de baisse de prix pour la PlayStation 4. Ça serait bien qu'ils fassent une petite baisse de prix pour que les consommateurs en profitent aussi. Et il faut pas qu'ils laissent Sony leur mettre une longueur d'avance, parce que sinon après ça va être.
Bah, là, la longueur d'avance, elle y est déjà.
Elle y est depuis le départ. Ouais. Non.
Voilà. Il y a même deux longueurs d'avance en fait, mais surtout, on sait que chez Microsoft, il y a des grosses discussions pour savoir s'ils continuent la Xbox. Parce que c'est pas exactement le truc le plus rentable de la boîte.
Pas vraiment, non.
Faut dire ce qu'il est. À un moment donné, ils continuent d'avoir la PS4 qui leur met une grosse branlée, ils vont peut-être remettre ça en question aussi.
Ouais, et Sony, il y a que la branche jeux vidéo qui est en bénéfice. Donc ils misent vraiment tout sur la PlayStation, parce que la branche multimédia elle est en train de se casser la gueule à un poids monumental. Et il y a vraiment que la section jeux vidéo qui fait des bénéfices, donc c'est le contraire en fait entre les deux pour l'instant.
Ok, donc nous allons évoquer les Game Awards. Alors je ne vous rappellerai pas ce souvenir douloureux qu'avaient été les VGX, n'est-ce pas? Ah, si vous assistez, ok. Non mais d'accord. Une cérémonie filmée à l'avance, toute pourrie, avec un humoriste pas drôle, des vidéos pas intéressantes, un concert. Tu demandais ce qu'il foutait là. Et une cérémonie en fait où au final c'était tellement la dèche que le seul truc qu'on avait retenu c'était No Man's Sky quoi. Enfin voilà quoi. Et donc ils ont revu leur plan. Alors déjà il faut savoir que ce n'est plus Spike TV qui produira le show, c'est Geoff Keighley, donc le présentateur historique qui du coup va s'occuper de tout ça, monsieur Doritos hein, rappelons-le. Nintendo sera rajouté au jury de l'événement. Ce qui m'a toujours moins fasciné d'ailleurs, c'est il y a que les gros constructeurs, les machins, mais à part ça, bon, les indés, tout ça, non, ok, d'accord. Quelque part, c'est une bonne nouvelle, mais le truc, c'est qu'on n'a pas plus de précision sur ce qu'ils vont faire exactement, parce que je suis pas sûr qu'ils aient envie de revenir à l'ancienne version où c'était plus Oscar, machin. Bon, c'était un peu chiant, mais au moins c'était un peu spectaculaire et puis. Il y avait des annonces quoi, je me rappelle notamment c'était au VGA ou au Video Game Awards où il y avait eu l'annonce de Skyrim je crois ou des trucs comme ça, donc voilà, moi finalement c'est ce que surtout ça que j'attends cette année, c'est que un peu comme certaines années des Video Game Awards, on ait des annonces de jeux intéressantes quoi.
Bah déjà ils ont peut-être un peu appris leurs erreurs l'année dernière parce qu'ils changent un peu de formule, ça ils ont changé de nom parce que l'année dernière ça fait un tollé, ça a vraiment pas marché. Donc là, ils changent de nom, ils vont peut-être changer un petit peu de formule, comme tu dis, pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus, mais après, ça risque de rester une cérémonie cirage de pompe, quoi. J'ai un peu peur de ça, où on va caresser dans le sens du poil les gros éditeurs en leur disant « ton jeu, c'est le meilleur », et puis voilà.
Donc, j'ai jamais vraiment saisi l'intérêt de ce genre de cérémonie, très honnêtement.
Alors à voir si dans leur changement de formule, ils vont, comme tu dis, ils vont peut-être un peu revenir à ce qui était les VGA en faisant des annonces, ou est-ce que ça va juste être une cérémonie de récompense où on va te dire ah ben tiens ton jeu c'est le meilleur, bravo, t'as une récompense et voilà
oh,
quoi.
Oh merci. Voilà. Je suis trop fort.
Et donc du coup ça n'a aucun intérêt si c'est ça.
Oui, non, mais de toute façon, pourquoi les gens se sont intéressés à cette cérémonie, faut pas se leurrer, c'est parce qu'il y avait des annonces dessus. Hein.
Bah oui, bah
non. Est-ce que fondamentalement, on a besoin d'un festival de Cannes du jeu vidéo? Je crois pas.
Pas vraiment, non.
Mais très honnêtement, c'est très très peu intéressant, quoi. ATH.
Bah en fait, vraiment, c'était les anciennes versions, pas les VGX de l'année dernière, mais avant, c'était ce qui faisait le sel, c'était les fameuses World Premières. Où ils mettaient en avant des jeux qui n'étaient pas annoncés du tout. Je me rappelle qu'il y avait eu le cas avec Uncharted 3 et The Last of Us qui avaient été annoncés au VGA. Il y avait donc c'était la première fois qu'on les voyait, c'était intéressant. Mais en tout cas, moi je sais que cette année, je la regarderai pas en direct parce que vu comment c'était de la merde l'année dernière, je vais pas perdre mon temps à regarder ça. Je regarderai un résumé des plus grosses annonces s'il y en a eu. Et si c'est pour voir une cérémonie des Oscars du jeu vidéo, waouh, fantastique. Mais j'ai pas que ça à foutre en fait de regarder un truc comme ça.
Donc ce sera le 5 décembre, pour ceux qui ont envie de s'infliger ça. Je vous avoue qu'à la rédac, on n'est pas spécialement motivés. Donc...
pas vraiment, non.
On passera notre tour. Allez, maintenant, on va attaquer aux deux cas bien costauds là, de la semaine. Hein. Et c'est ce qui va principalement occuper notre podcast, j'ai envie de dire. Le premier cas de la semaine, c'est Rockstar. Donc, comme je disais, je retire tout ce que j'ai pu dire de bien sur Rockstar la semaine dernière. Parce que là, cette semaine, ils ont fait un truc, j'avoue, j'ai pas compris. Tu demandes si les mecs réfléchissent des fois. Alors, pour vous résumer, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a eu une réédition de GTA San Andreas qui est sortie sur Xbox 360 et Xbox One, je crois. Et que cette réédition du jeu a apporté des nouveautés, notamment une résolution plus élevée, des textures un peu moins dégueulasses, ce genre de choses, quoi. Et là, ils ont sorti ce truc sur PC, en fait. Et ils ont appliqué la mise à jour, en fait, à tous les acheteurs de GTA San Andreas. Vous me direz, quel est le problème ? Ah non, il y a aucun problème, hein. Juste que... le jeu à la base sur PC supportait la résolution 1080p, que là, comme c'est la version 360, ils l'ont rétrogradé en 900p, et que du coup, on n'a plus de 1080p, déjà, juste que le format 16:9 a disparu, et juste qu'il y a 18 musiques qui ont disparu du jeu. Pourquoi ? Parce que il se trouve qu'entre-temps, Rockstar a perdu les droits sur certaines musiques, et que ces musiques, eh bien, tout simplement, ont été retirées de la version PC. Pourquoi? c'est un souci qu'on avait déjà évoqué ici, à savoir, messieurs, mesdames, vous croyez que vous achetez des jeux, vous croyez que vous les possédez? Non, vous possédez des licences. Et là, on a l'illustration parfaite. Et pour moi, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais Rockstar vient de créer un dangereux précédent. Parce que je sais pas si vous êtes au courant au niveau, en termes de copyright, au niveau de la musique, etc. De par le passé, on sait ce que ça a donné sur certains vieux jeux, hein. Notamment, je rappelle qu'il y a plein de vieux jeux qui ont eu du mal à sortir sous Golden Games parce qu'il y avait des histoires sur les musiques, ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la prochaine étape? En gros, bientôt, on aura des jeux qui vont se mettre à jour et où la musique sera supprimée parce que il y a eu un conflit entre l'artiste qui a fait la musique et le studio.
Ouais, c'est le problème de d'acheter un jeu, comme tu dis, t'achètes pas un jeu, t'achètes une licence et tu payes pour une chose à l'origine, mais cette chose-là peut évoluer, et là dans le mauvais sens du terme, quoi. Parce que t'achètes un jeu qui te vend en 1080p par exemple, ce qui peut être un argument de vente, et puis quelques temps après tu te dis ah ben non, finalement pour certaines raisons on le downgrade en quelque sorte, et ben vous avez pas le choix. De toute façon c'est comme ça.
En plus, ce qui se passe là, c'est que les acheteurs de GTA San Andreas sur PC, enfin, ils ont acheté une version du jeu.
Oui, voilà.
Ils ont rien demandé, quoi. Ils avaient pas besoin de cette mise à jour. Parce que, alors oui, ok, cette version, elle apporte quand même deux trucs sur PC.
La manette.
Elle apporte la manette et de meilleures textures.
Ouais.
Ouais, mais c'est bien ça, mais je veux dire qu'on aurait très bien pu s'en passer, hein. Tu mets un X-padder, tu vois, tu configues ta manette, ça marche très bien aussi, hein. T'avais pas besoin que Rockstar fasse ça. Moi, je suis désolé, les gens ont acheté une version de la licence, je vois pas en vertu de quoi ils mettraient à jour la licence et qu'ils supprimaient la musique. En plus, mais le respect du consommateur, quoi. Vous rendez compte? Mais il y a juste zéro respect de Rockstar, quoi.
Pour moi, c'est comme si on te faisait de la pub mensongère en te disant on te vend un jeu qui fait du 1080, etc. Et puis finalement, quand tu l'achètes, ça y est pas, quoi. Alors on va revenir un peu à ça avec Assassin's Creed après, parce que c'est un peu, il y a pas dans les mêmes raisons, mais bon, on en discutera plus tard. Mais t'achètes un jeu, un produit pour certaines raisons, et puis on te dit quelques temps après, on le modifie, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous perdez ce que vous avez acheté, et puis vous avez pas votre mot à dire en plus, quoi.
ATH?
Moi, je trouve pas ça scandaleux, quoi. C'est juste, je trouve que Rockstar, ils sont dans leur droit tout à fait légitime de se foutre de la gueule du consommateur. Non, mais sérieusement, comme t'as dit déjà, le downgrade graphique, alors qu'on sait que sur PC, le jeu était en 1080p et qu'il y avait des mods qui rendaient le jeu un peu plus joli qu'il n'était à la base.
Oui, parce que fondamentalement, les textures de Rockstar, on n'en avait pas besoin, je veux dire. Hein. On peut faire les nôtres, hein, y a pas de problème.
Mais est-ce que je trouve ça bizarre? On va dire, d'accord, les musiques, on va leur donner raison sur ce point-là, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, parce que je trouve ça scandaleux de retirer des pistes sonores, mais bon, on va dire que sur ce côté-là, ils n'avaient pas le choix.
Attends, ils n'avaient pas le choix, je sais pas, il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça, ils n'avaient pas à faire la mise à jour, en fait.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, genre, c'est comme s'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils étaient contraints d'enlever les musiques, d'accord? Mais pourquoi tu enlèves le format 16/9 et tu le mets en 4 tiers?
Ça, c'est pas qu'ils ont enlevé le format 16/9, c'est qu'ils n'ont pas rajouté ATH.
Parce qu'en fait, ils ont basculé de version.
Voilà, ils ont mis la version 360, portage à la Rockstar, voilà, tu vois. C'est pour ça que je disais la semaine dernière, Rockstar, on se méfie de la version PC parce qu'on sait l'histoire qu'ils ont sur PC. Rockstar se fout de la gueule des joueurs PC, quoi.
Là, c'est à ce moment-là, tu te demandes, ok, pourquoi acheter des jeux dématérialisés si 5 ans après, on met une version moins bien qu'elle n'était à l'origine? C'est ça qui est totalement con, je trouve ça aberrant même que Rockstar ait pu penser à faire ce genre de choses, en fait.
Non, mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça ouvre les portes à un monde de possibilités, là, si tu veux. Si on commence à retirer du contenu des jeux post-release, mais c'est effrayant, quoi. Là, en fait, si tu veux, si on passe vraiment à un système où ils considèrent qu'ils sont... parce qu'ils ont toujours considéré que c'était des licences qu'ils nous prêtaient, si tu veux. Mais dans les faits, ils le pratiquaient pas parce qu'ils savaient très bien que ça ferait un scandale. Mais là, tu vois, pour moi, ça crée un précédent. C'est-à-dire que à l'avenir, on ne sait pas, pour des raisons juridiques... ou parce que y a une nouvelle version qui est sortie, ou on va commencer à te retirer des trucs du jeu, comme ça, c'est super flippant, quoi.
Le plus gros problème pour moi du dématérialisé, c'est ça, en fait, c'est que du jour au lendemain, déjà, ils peuvent retirer le jeu de la plateforme de téléchargement. Donc, du jour au lendemain ton jeu, tu pourras, ça se trouve, tu ne pourras même plus le retélécharger alors que tu l'as payé.
Alors, sachant que là, jusqu'à aujourd'hui, hein, je précise, parce que maintenant qu'il y a ce précédent, après, on verra, hein, mais jusqu'à aujourd'hui, par exemple, quand Electronic Arts a retiré ses jeux de Steam, tous ceux qui ont acheté des jeux Electronic Arts sur Steam ont accès à leurs jeux encore.
Oui, c'est pour ça que je te parle d'aujourd'hui, mais demain. Demain, qui te dit que t'as téléchargé le jeu sur ta bécane, sur ta console ou sur ton PC, d'accord, tant qu'il est installé, pas de problème, mais si tu le supprimes, c'est foutu, parce qu'on a plus, on va pas payer des serveurs pour garder des jeux en stockage. Si on veut le retirer, ben on le retire et puis démerde-toi. C'est pour ça que je préférais toujours une version boîte d'un jeu, si j'ai l'occasion d'avoir, pour au moins être sûr d'avoir un truc, un support physique, et si je sais qu'une mise à jour va me retirer du contenu tout ça, bah alors là je vais déconnecter carrément soit la console soit le PC pour pas avoir la foutue mise à jour qui va me downgrader le jeu par rapport au jeu original. Par exemple, moi j'étais à San Andreas, je l'ai sur PlayStation 2, ok il est moche etc, mais au moins j'ai la version telle qu'elle a été pensée au départ avec les musiques et tout ça. Maintenant qu'on vient de me retirer mes musiques sur PlayStation 2, là je vais bien rigoler.
Attention avec la version boîte quand même, parce que aujourd'hui sur PC, si t'achètes une version boîte, un coup sur deux, c'est un code Steam qui est à l'intérieur. Autant sur ça, console, t'as le jeu, que sur PC, moi j'ai acheté le dernier Borderlands, tu reçois ton jeu, ton CD, tu mets le CD, et en fait ça te lance Steam et t'as la clé à rentrer.
Et c'est là où on revient au projet initial de la Xbox One, enfin de la PlayStation 4 aussi d'ailleurs, hein, sauf que Sony l'avait pas dit, mais à mon avis c'était dans les cartons aussi. Mais à savoir que la console sera tout le temps en ligne, que tu devras installer le jeu. Donc ça veut dire que même si tu as un CD, bah t'es baisé.
C'est ça.
Parce que bah
ça suffit pas, le CD seul ne suffit pas à jouer au jeu.
Voilà. De toute façon, si la console est en ligne et que le jeu est installé, on peut modifier le jeu à distance.
Ah bah bien sûr.
Parce que fondamentalement, c'est ça le problème.
Oui, et puis on peut t'obliger à faire la mise à jour avant de lancer ton jeu et puis voilà.
Parce que j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, le fait que un jeu puisse disparaître d'une plateforme et que tu puisses plus le télécharger si la plateforme ferme ou un truc comme ça, enfin c'est pas une nouveauté quoi, c'est
ça
juste
fait
que
partie des risques,
ça c'est pas encore arrivé, mais on sait que ça peut arriver. Alors que par contre, la nouveauté vraiment, c'est qu'on puisse désinstaller ton jeu à distance quoi, en disant nous on retire les licences de ce support-là. Alors, je pense pas qu'un éditeur irait jusque là sous peine de se faire un harakiri.
Oui.
Mais qui sait, maintenant on retire bien des musiques des jeux, donc quand il y a le premier pas qui est fait, quand la suite quoi.
C'est pour ça que heureusement qu'on peut toujours jouer hors ligne sur console. Ça c'est encore un point, on va dire le seul point qui reste aux consoles. Mais ce qui est vraiment embêtant, c'est les jeux qui sont totalement connectés online. Par exemple, je pense à Destiny. Destiny qui dit que quand Destiny 2 va sortir, il décide de fermer les serveurs du premier jeu et ou même de retirer du contenu que tu repasses à la caisse en gros.
Je viens de penser à un truc là. Imagine un super système qui fait rêver les éditeurs. On te sort un jeu et si tu veux accéder à certains contenus, tu payes un abonnement. En gros, alors si tu as juste acheté la galette, tu as accès à cette partie du contenu. Si tu veux accéder à ce contenu-là, il faut payer tant. Si tu veux accéder à ce contenu-là, faut payer tant. Et en fait, en fonction de ce que tu as payé, on te débloque certaines zones du jeu, quoi. C'est fascinant, ça.
Malheureusement, c'est déjà le cas avec. On sait que notamment Capcom, c'est le roi du DLC inclus dans la galette, c'est-à-dire tu vas juste déverrouiller la clé du jeu, donc t'auras rien à télécharger vraiment.
Ouais, mais là c'est l'étape après, tu vois, on fait payer un abonnement.
Ça va être de pire en pire, je pense. Les joueurs sont tellement cons que je pense qu'ils vont continuer à cautionner ce genre de pratique si le jeu est tellement hype qu'il le faut absolument. Si ça marche, eh ben, ils vont pas s'en priver, je pense. Hein.
Oui, mais ATH, je te ferai remarquer que tu as acheté Assassin's Creed Unity.
Day One.
Oui, mais... J'ai acheté Assassin's Creed Unity, mais bon, déjà les microtransactions, j'en ai payé aucune encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que tu peux débloquer le contenu en y jouant. C'est juste pour les gens qui ont envie d'être un peu plus rapide entre guillemets. Et le prix du jeu où je l'ai payé, si je vous le dis, c'est indécent quand même, parce que je l'ai pas payé très cher, donc j'en ai rien à foutre.
Un petit point pour le GTA là. Ici, il y en a parmi vous qui ont le jeu et qui ont eu des problèmes de sauvegarde. Il y a un modeur qui s'appelle Silent qui a fait un patch pour les rendre compatibles. Donc allez faire un tour là-dessus et puis voilà.
Oui, d'ailleurs à propos des modeurs, merci la communauté du modding parce que les musiques elles sont revenues.
Ah bah
mais,
oui, bah ça oui, c'est pas étonnant.
De manière pas très légale évidemment. Enfin, moi je considère que j'ai payé un jeu, il devrait y avoir le contenu pour lequel j'ai payé. Point. Voilà. Donc si vous voulez les musiques, allez les prendre. Voilà, hein, on va pas faire les faux culs non plus là. Tous ceux qui disent oh là là, pirater c'est pas bien, mon dieu, allez les prendre. Et surtout, encore une fois, justement à propos de piratage, moi je constate que par contre les pirates, eux, ils ont pas de problème. Hein.
c'est ça le qui est plus amusant, c'est que les mecs, il va pirater son jeu, il pourra y jouer dans de meilleures conditions que quelqu'un qui l'a payé sur Steam. Il aura payé 0€, il sera tranquille PPR, je me la coule douce.
Voilà. Bon, on va attaquer le cas Ubisoft maintenant.
Le gros dossier.
Le gros dossier là. Vous n'êtes pas sans savoir, n'est-ce pas, que Ubisoft a quelques soucis, peut sortir des jeux finis. Et ATH, je crois que c'est le cas avec ce nouvel Assassin's Creed, mais pas que. C'est-à-dire que non seulement on a les soucis de jeux pas finis, mais en plus on a quelques petites friandises comme ça qui sont pas mal.
Ah, d'accord, on va commencer déjà par celle qu'on avait teasée depuis tout à l'heure dans le cas GTA, c'est les microtransactions. Dans un jeu vendu plein pot, c'est-à-dire un
60
jeu...
60€.
60€, 70€ chez certaines anciennes, 50€ sur PC je crois. Et
bon, bah... allez, on va dire 40€ si tu achètes en Angleterre.
Voilà. Donc, un jeu que tu achètes dans le commerce, ce n'est pas un free-to-play, un truc que tu vas télécharger pour jouer gratuitement et après pour que les éditeurs gagnent un peu d'argent quand même. Voilà, ils vont dire si tu veux accéder à tel niveau, faut payer 2-3€. Là non, ils te proposent des microtransactions pour booster les caractéristiques de ton personnage. Dans un jeu vendu, plein pot comme je l'ai dit, je trouve ça scandaleux. Mais à un point où je vomis sur Ubisoft, sur ce genre de pratique. Ils auraient sorti Assassin's Creed Unity en free-to-play, et j'aurais dit d'accord, y a pas de souci, mec. Moi, j'aurais continué à jouer gratos, mais je vois pas pourquoi tu mets des microtransactions pour booster les caractéristiques de ton personnage. Genre, tu peux avoir un boost de discrétion, ou bien si tu décides de passer à la caisse, tu peux changer ton équipement. Moi, je ne le fais pas. Parce que je savais pas déjà à la base que c'était dans le jeu, parce que Ubisoft nous l'avait bien caché quand même. Tu peux acheter une meilleure arme, une meilleure armure, et dans ce jeu-là, contrairement aux anciens Assassin's Creed, l'équipement est très important parce que t'as un degré, genre niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et si en gros t'es niveau 1 et tu vas te castagner avec un garde niveau 5, il va te mettre une misère parce que les combats ils ont été rendus un peu plus difficiles, et je pense que c'est notamment en grande partie à cause de ça.
Ouais, on l'a pu le voir hier dans le live de Mordrain où il est mort très souvent.
Oui, mais c'est Mordrain alors.
ça compte pas.
Y a ça, plus le fait que Ubisoft, quand j'ai acheté mon jeu, on m'a proposé d'avoir des DLC Day One, enfin des DLC qui vont sortir plus tard, mais le Season Pass il est quand même à 30€ pour avoir du contenu supplémentaire au jeu.
Pendant ce temps-là, The Witcher.
Donc si tu veux, si j'ai envie d'avoir le jeu complet, on va dire je vais l'acheter dans une grande enseigne. Le jeu à 50€, plus les microtransactions, on va dire, je sais pas, parce que les microtransactions, si tu veux tout débloquer, c'est maximum. Il y a un site qui a fait toutes les le listing, c'est 99€ quand même, hein. Plus le season pass à 30€ pour avoir un jeu au minimum complet, c'est du foutage de gueule.
On est d'accord. En plus, ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que par-dessus le marché, tu as les applications Ubisoft dans le même genre d'idée où on te dit, tu veux ouvrir ce coffre ? Utilise l'application pour téléphone.
Voilà, la companion app pour déverrouiller un putain de coffre, excusez-moi de l'expression, mais un coffre de merde. C'est-à-dire que je me balade dans la rue de Paris, tout ça, tu vois, il y a un coffre et tout, donc tu dis, ouais, bah cool, je vais l'ouvrir. Et bah là, non, il dit, si vous voulez déverrouiller ce coffre-là, il faut jouer à la companion app Assassin's Creed Initiate. Non, mais j'ai pas que ça à foutre de jouer sur mon téléphone ou sur ma tablette, j'ai envie de jouer sur mon écran de télé.
Et non, mais surtout, en plus, on te sort complètement du jeu. Moi, c'est ça qui me pose problème, en fait. C'est-à-dire que pour vendre une companion app, on te casse ton immersion, quoi. Enfin, oui, c'est une décision de game design totalement débile, quoi.
Du coup, tu l'as testé, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, sur la companion app? C'est juste un truc à cliquer ou t'as carrément un petit truc à faire qui te prend 5 minutes,
Je sais pas, j'ai pas touché, j'ai pas envie de jouer
parce
à ça.
Parce que si vraiment, en plus, c'est un truc qui te prend genre 5 minutes sur ton téléphone, enfin, comme dit Tyrann, ça te sort complètement du jeu, quoi.
J'imagine que tu utilises ton compte Uplay pour rentrer le mot de passe, enfin, voilà, ça te sort du jeu, dans tous les cas, ça te sort du jeu. Donc, c'est crétin.
Mais j'ai l'impression que c'est un jeu à part, enfin, j'y ai pas touché, donc je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est vraiment un jeu...
Non, on va pas s'avancer, on n'en sait rien, mais de toute façon, ça n'a rien à faire là.
Ça te casse les versions du jeu, ouais.
Si tu veux faire une companion app ou un truc, tu le fais à côté, tu vois, genre truc, je sais pas, enfin, même quel intérêt fondamental dans Assassin's Creed en plus. À la limite que tu fasses un truc, genre, tu sors un petit jeu sur téléphone et puis si t'as eu le jeu, après tout, que ça débloque un costume ou une connerie comme ça, un truc esthétique, pourquoi pas. Mais sinon, enfin, qu'est-ce que ça fait dans le jeu de base, quoi? Ça n'a rien à y faire.
Parce que là, ils essayent de t'inciter à télécharger la companion app. pour se dire bon, la Companion Up a cartonné, a été téléchargée plus de 2 millions de fois, super, c'est un succès. De ce que j'ai pu en voir dans le jeu, parce que dans le jeu il y a quand même des éléments qui parlent de la Companion Up, etc. Je crois que c'est vraiment un jeu à part et qui est en lien avec ce assassin là pour débloquer des tenues, des conneries quoi, vraiment des trucs pas très intéressants. Comme t'as dit, ça casse l'immersion. Et en plus de ça, voilà quoi, j'ai pas envie de jouer sur mon smartphone à Assassin's Creed.
Après, qu'il y ait une companion app, que tu puisses avoir un petit jeu à côté, comme tu dis, qui te rapporte des petits trucs, mais que tu le fasses quand tu veux, ça me pose pas de problème. Là, le problème qui se passe, c'est que t'es dans ton jeu, et si tu veux ouvrir ce putain de coffre, eh ben t'es obligé de t'arrêter 5 minutes de jouer pour aller faire ton truc sur ta companion app pour pouvoir ouvrir ton coffre après, quoi.
Ils avaient déjà essayé de le faire avec Watch Dogs, je me rappelle. C'est pas un truc qui fondamentalement m'intéresse, et je sais pas vraiment si ce genre de choses marche. Mais en tout cas, il faut arrêter de vouloir forcer le joueur à le faire, quoi.
Voilà. Et en plus, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est un peu le syndrome Assassin's Creed 3, à savoir, le jeu n'est pas fini, tout simplement. C'est-à-dire que on a des scènes d'horreur où il y a les textures sur les visages des personnages qui n'apparaissent pas. D'ailleurs, ils ont trouvé un concept, là. Je pense que s'ils font un jeu à partir de ça, un jeu d'horreur, il y a d'idées, là. Il y avait des bugs d'animation aussi, genre le personnage qui essaie de s'accrocher à un Porsche pour monter. En fait, quand tu le vois s'accrocher au Porsche, tu vois pas les bras qui se lèvent pour accrocher. Il est debout dans les airs, tu vois, et il se balance comme ça. C'est très, très spécial. Un bug qui a rencontré ATH aussi, c'est le fait de passer à travers le décor, quoi, tout simplement.
Ouais, je me baladais sur les toits, je saute, j'atterris sur le sol. Mais là, le sol disparaît et je me retrouve dans l'animus, mais c'est le vide intersidéral. Je suis dans un espèce de blanc. Et puis là, il me dit, vous êtes mort. Parce que dans Assassin's Creed, t'es pas mort.
Désynchronisé.
Donc, temps de chargement, etc., patati, patata.
Ce qui est très agréable quand on sait que le jeu est pété de temps de chargement super pénible.
Ouais. J'ai eu quoi d'autre comme bug? J'ai eu un bug où je fais un peu de la grimpette et puis là mon personnage il traverse le mur, mais genre il reste bloqué pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que la texture décide de l'éjecter du décor. Quand tu essaies de fouiller les gardes que t'as assassiné, si tu as l'épée qui est sortie, et bah tu as l'épée qui est en mode vibration, tu vois, à bug, ça fait un truc, une espèce d'anguille qui bouge sur elle-même. Enfin, c'est un truc totalement délirant à voir. Et ça, c'est vraiment les bugs que j'ai en tête, quoi. Mais j'en ai eu d'autres où j'ai râlé, quoi, même dans le jeu.
Bon, ça, après, c'est la plupart de ces bugs ont été corrigés dans le dernier patch qui est sorti récemment, là. Par contre, il y a un souci qui est toujours là, en plus des chargements, c'est le framerate. Et là, pour moi, là, juste non. Enfin, voilà, maintenant, on comprend pourquoi ils voulaient faire un jeu en 30 FPS, en fait. Voilà, on s'est foutu de notre gueule, on disait oui, choix artistique, tout ça. Mes fesses, voilà. Les mecs ne sont tout simplement pas capables de faire un jeu fluide, c'est tout. Et on a eu l'illustration parfaite, que ce soit sur console, ce qui est quand même curieux quand on sait que c'est quand même des hardware fixes où t'es censé pouvoir faire des optimisations.
Là, c'est plus facile d'optimiser sur une console que sur un PC, parce que la gamme des PC est ultra large, alors qu'une PS4, tout le monde a le même hardware dedans, quoi.
Voilà, mais aussi sur PC, mais pas genre, tu vois, le PC d'entrée gamme, genre le PC de bourgeois à plus de 1000 euros, avec 16 gigaoctets de RAM, SSD, carte de bourgeois, etc., quoi. Donc, on a pu le voir sur le PC de Mandren, il a pas un PC, un petit PC, quoi, il a un PC qui a coûté une blinde. Le jeu a des putains de chutes de framerate, et là tu fais, mais, alors oui, le jeu il est beau, certes, mais enfin, je veux dire, avec les machines de guerre qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas exploitées à leur plein potentiel, ça devrait tourner nickel chrome, quoi. Merde. Et c'est pareil pour les consoles. Mais Ubisoft s'est moqué de nous pendant toute l'année, là, en nous disant « Oui, on aura un jeu en 30 FPS constant. » Ils ne sont même pas foutus de faire le 30 FPS constant. Ah ouais, bah du coup, on comprend pourquoi ils font pas du 60 FPS. Hein. En fait, ils essayaient de préparer le terrain, quoi, c'est tout. C'est pour ça que depuis des mois et des mois, là, enfin, ils essayent, ils discutent de ces histoires de résolution, là, en sachant très bien qu'ils vont se prendre du système dans la gueule. C'est parce que ils savaient que, techniquement, ils étaient incapable de fournir un jeu fluide.
Mais moi, c'est ce qui m'a choqué hier en regardant jouer Mordran, c'est que autant il y a des passages où il y a une vue magnifique, où bon, il a un PC, il a un bon PC, mais il y a des passages où il est sur le haut de Notre-Dame, où tu vois tout Paris, c'est vraiment super bien fait, et par contre, après, il était dans une pauvre prison, et t'as des chutes de framerate alors qu'il n'y a rien. C'est incompréhensible.
Sinon, pour vous faire rigoler un petit peu, moi, j'ai eu des chutes de framerate où j'étais dans une église. en train d'escalader des vitraux pour une mission en fait. Et le jeu était passé, je pense, sous la barre des 10 FPS à ce moment-là. Alors que quand j'étais dehors, il y avait une foule monumentale, le jeu était fluide. Par contre, je me baladais de toit en toit, ça ramait, je tombais sous les 20 FPS, je pense. Mais en fait, il y a des moments où où ça devrait ramer, ça ne rame pas. Oui, des moments où il n'y a rien d'affiché, parce que dans l'église, j'étais tout seul. Hein, c'est pas
c'est ce qui m'a choqué aussi quand j'ai vu Mordrain jouer, c'est qu'il y a des chutes de framerate, alors qu'il n'y a pas grand-chose, et des fois, il y a plein de choses, et ça marche bien. Alors, soit le jeu n'a pas été testé, je sais pas, c'est...
Non mais il a pas été testé, ils te sortent un jeu par an.
Oui.
À un moment donné, voilà, on le connaît le problème.
Non, puis là en plus ils te sortent deux jeux quasi au même moment, parce qu'il y a Assassin's Creed qui sort cette semaine et Far Cry 4 la semaine prochaine. Alors je sais pas si c'est les mêmes qui l'ont fait de chez Ubisoft.
Non, c'est pas les mêmes,
c'est pas
ils
les
ont
mêmes.
Des équipes colossales.
Et t'as oublié aussi Assassin's Creed Rogue qui aussi, sort ouais. sur PS3, 360, PC et Unity qui sort sur PC, 3, PS4 et Xbox One.
Non mais pour moi de toute façon là le problème et la solution est simple. On est arrivé au bout du jeu par an. C'est tout.
Oui.
Assassin's Creed, ce n'est pas Call of Duty, c'est pas une campagne super linéaire dans un couloir où tu vas pouvoir assez facilement corriger les bugs. C'est un jeu en open world. Quand tu veux faire un jeu en open world, quand tu veux que ce soit fignolé, il faut le faire à la Rockstar et prendre le temps. Enfin, il y a pas de secret quoi, j'ai envie de dire, il y a pas de secret. C'est pas possible de faire un assassin par an. À un moment donné, il va falloir qu'ils le comprennent ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de le comprendre d'ailleurs, parce que là, il y a eu des discussions cette semaine, comme quoi ils se posaient la question de remettre en cause la politique du jeu par an, mais il serait temps quoi.
Bah, ouais.
Parce que en plus, ça, le truc c'est que ça commence à affecter leur business quoi. Parce que là, il y a eu une chute des actions de 10%. À un moment donné. Il faudrait pas que Assassin's Creed ça devienne le jeu musical de l'open world, si tu veux, à savoir que à force d'en sortir un opus par an, ben la franchise elle se casse la gueule. Et là pour le coup, ils seront emmerdés chez Ubisoft hein. Parce que certes, ils ont sorti des licences depuis, mais Assassin's Creed ça reste quand même leur principal vin chalet quoi. Et s'ils l'ont plus, si ça se casse la gueule, moi je comprends pas les éditeurs si vous voulez qui exploite jusqu'à la moelle une licence sans se soucier de la qualité, en fait. Il devrait y avoir, à un moment donné, un contrôle qualité. Et certes, pour le moment, les gens achètent les jeux. Et ça, c'est aussi un reproche que je ferais. C'est je vois beaucoup de gens se plaindre, etc. Mais attendez, vous les avez achetés, les jeux, à un moment donné, quoi. Et alors certes, on me dira dans la presse française... C'est vrai que, bizarrement, comme ça se passait à Paris, j'ai eu l'impression que les testeurs français ont été... atteint d'une espèce de myopie où il y a des défauts qui ressortaient pas, etc. T'as limite l'impression que le jeu est parfait, mais tu suffisait de lire la presse anglaise par exemple. Je sais pas, le jeu il s'est fait descendre outre-Atlantique quoi. Et les gens, on peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Ah si, j'avais oublié un truc. Excusez-moi. Une nouvelle pratique d'Ubisoft. Et je crois que c'est la plus scandaleuse de toutes. Vous êtes au courant de l'embargo post-launch?
Oui, l'embargo qui avait été mis sur la presse notamment américaine pour pas publier les tests avant la date de sortie du jeu.
Voilà, non mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que en gros, maintenant, c'est une nouvelle forme d'embargo pour avoir tes copies gratuites du jeu, tes copies de review auprès d'un éditeur, en l'occurrence auprès de Ubisoft, on te dit si tu veux sortir ton test, il faudra le sortir 12 heures après la sortie du jeu.
D'ailleurs, il y a un site, je sais plus trop quel site, mais il y en a un qui a refusé l'embargo d'Ubisoft et ils achèteront le jeu directement dans le commerce pour tester les jeux et ils passeront plus par Ubisoft pour à cause de cet embargo-là, en fait.
Bah, surtout que ça sert à rien, en plus. Enfin, je veux dire, tu attends 12 heures pour sortir le test du jeu alors que le test est prêt. Mais la presse sert à quoi, en fait? C'est là que tu vois comment Ubisoft te considère... pas que Ubisoft, d'ailleurs, hein, mais là, pour le coup, on va dire qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin Maurice, quoi. C'est-à-dire que, en gros, la presse, c'est le relais communication. S'il vous plaît, là, ils savaient très bien, en gros, qu'ils avaient fait de la merde, quoi. Donc, ils ont dit, merci d'attendre 12 heures, le temps qu'on vende quelques copies de notre jeu, puis voilà, quoi. C'est complètement déconnant.
Ils ont même pas dit merci, ils ont dit vous allez sortir notre jeu, le test à ce moment-là, sinon on travaillera plus avec vous.
Je suis pas sûr. Hein. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y aurait pas de copie de review en fait. Ce qui est important pour un journaliste, parce que je veux dire, si t'as pas la copie à l'avance pour le jeu,
bah ton test il perd de l'intérêt. Ouais.
Ouais, tu sors pas ton test Day One en fait.
C'est ça.
Et ça, ça fait partie des problèmes de la critique actuelle sur Internet, c'est-à-dire que vu qu'on prend pas le temps de tester les jeux en profondeur, vu qu'il faut absolument que le test il soit prêt Day One pour que qu'on ait dans une optique guide d'achat en fait. Bah, si tu veux faire un guide d'achat qui soit pertinent, faut le sortir le jour Day One, parce que sinon, je veux dire, les gens ils vont aller voir les avis des internautes et puis voilà quoi.
Ah mais de toute façon, moi Ubisoft c'est vraiment une entreprise qui est en train de m'écœurer. C'est un point où je me dis que les prochains jeux, même s'ils ont l'air mortels de Ubisoft, et bah je les prendrai. Ça sera déjà le Day One, c'est fini. Ou bien à moins que je peux en avoir un gratuitement ou bien d'une manière ou d'une autre. En tout cas, pour moi, ils ont perdu un client, je pense.
Oui, mais après, est-ce que c'est général? Parce que moi, si tu veux, là, moi je dis, enfin très bien, mais après, moi je constate une chose, c'est que la série continue à se vendre.
Ben c'est toujours pareil.
Donc,
c'est...
à un moment
tant
donné,
que les gens achèteront.
C'est un débat que, enfin, parce que Mikael, par exemple, je sais que lui, il est contre le boycott. Enfin, il pense que ça sert à rien, etc. Enfin, moi, je suis désolé. À un moment donné, si tu vas avoir un moyen de pression sur les éditeurs, il y en a qu'un seul. Hein. Parce que t'auras beau gueuler sur les forums, les éditeurs, ils s'en battent les couilles. Mais d'une force, du moment que t'achètes son jeu, c'est l'argent dans sa poche.
C'est ça.
Donc, à un moment donné, le seul argument qu'un consommateur peut avoir face à un éditeur, c'est le porte-monnaie. Donc, moi, je dis, les gens, votez avec votre porte-monnaie. Moi, je suis désolé, je ne trouve pas ça cohérent, au vu des problèmes qu'il y a eu à la sortie, que le jeu soit dans le top des ventes. Ou alors, c'est que ça ne pose pas tant de problèmes que ça au consommateur. Et dans ce cas-là, je vois pas pourquoi Ubisoft se priverait, finalement. Vu que le consommateur se contente de ça.
Bah, en fait, dire, le problème, c'est le consommateur sur, je parle de Assassin's Creed, Unity, c'est qu'il n'a pas été, le test a été publié très tard et les gens, ils étaient pas forcément tous au courant. Et en plus, ça, c'était une licence vachement attendue, c'est une licence vachement attendue qui, où il y a beaucoup de gens qui
ouais, attendent. Enfin, ils étaient pas au courant, Assassin's Creed 3, TH, quoi. Enfin,
oui, non,
je veux
oui,
dire, le jeu, c'est pas une surprise, quoi. Je veux dire, Assassin's Creed 3, on a bien vu ce que ça a donné à la sortie, quoi. Je veux dire, c'était pas tellement plus brillant, hein.
Là, c'est pire que Assassin's Creed 3 à sa sortie. Assassin's Creed 3, le framework, il était plutôt normal. Enfin, là, il y a vraiment plus de défauts, plus les microtransactions, enfin, tous les trucs qu'on a pu citer. Tu sens l'overdose de Ubisoft à vouloir sortir une licence par an. Far Cry 4, qui a l'air d'être un copier-coller du 3, mais dans l'Himalaya. En plus, ça, il y a pas mal de bugs. J'ai vu des gens qui se sont plaints sur les forums, mais ça, bizarrement, ça n'a pas été mis sur les tests.
Après, tu sais, tu peux faire un jeu et ne pas voir les bugs.
Ouais, mais j'ai envie de dire que quand t'as plusieurs bugs sur Far Cry 4, où ta partie plante en plein milieu du jeu, et qui sont assez fréquents, ça m'étonnerait que les gens n'ont pas eu.
Moi aussi, je t'assure que des fois, j'ai joué à des jeux, j'avais aucun bug, et des gens à côté sur les forums se plaignaient de certains bugs. Donc ça, c'est pas...
Bon,
c'est, ça arrive, hein.
Admettons que voilà, tout le monde est tout blanc. En tout cas, c'est ce que je sais par le cas de Far Cry 4 qui va sortir là bientôt, je le prendrai. Mais quand il sera vraiment à petit prix, il y aura les patchs qui seront mis comme ça. Le jeu, il y aura moins de bugs et Ubisoft ne touchera aucun rond sur ma pomme.
Ouais, donc tu vas le prendre d'occasion, quoi.
Ah, mais oui, c'est ça. Je vais le prendre d'occasion et puis vraiment pas cher. Ou même si ça se trouve qu'ils vont sortir une édition Game of the Year l'année prochaine, tu vois. Tous les prochains jeux d'Ubisoft, de toute façon, Watch Dogs 2, même une nouvelle licence. Moi, j'ai plus confiance en leurs produits.
Bah, le truc, c'est que de toute façon, toutes leurs licences sont dans un cycle de développement qui est totalement délirant. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Hein, donc. Ben, tu es motivé pour les jeux Ubisoft, Day One, tout ça ?
Moi déjà, le concept de jeu Day One, c'est quelque chose que je fais très rarement, même peut-être que j'ai pas fait depuis très très longtemps, parce que, ben, comme tu dis, aujourd'hui, avec la possibilité de faire des patchs, les jeux ils sortent et ils sont soit pas finis, soit buggés. Donc déjà, le jeu Day One, moi, c'est quelque chose que je fais pas.
Bon, en fait, finalement, Ubisoft, ils nous font un peu un early access, sans le dire. Hein.
C'est ça. Oui, c'est ça, en fait.
Et puis après, ouais, je sais pas ce qu'on peut rajouter de plus, quoi. C'est vraiment, il y a des choses, voilà, assez scandaleuses dedans. Alors, est-ce que il y a Far Cry qui sort la semaine prochaine? Est-ce qu'il y aura les mêmes choses dedans? Parce que le coup du Companion App, tout ça, on n'en avait pas entendu parler, par exemple.
Le petit plus Ubisoft.
La petite surprise.
Voilà, chez Ubisoft, on s'est bien gardé certains secrets.
Donc, ouais, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Et pour ma défense, Assassin's Creed Unity. Si vous voulez savoir combien je l'ai payé moins de 10 euros. Donc, je pense
oula,
que...
Il était tombé du camion, ton Assassin's Creed, là.
Non, 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 je l'ai eu en boutique totalement légal, ça, mais j'avais pas mal de bons de réduction et tout ça, donc voilà. C'est pour ça que les jeux Day One, je les prends quand ils sont pas chers. ou bien quand je peux les avoir vraiment à genre maximum 20€, je mettrai dans un jeu Day One.
Dans tous les cas, je pense que Ubisoft ils devraient faire gaffe parce qu'ils sont en train d'endommager leur réputation là. Et je prends notamment référence à un article de Forbes qui à mon avis visait juste, c'est-à-dire celui qui dit que Ubisoft est en train de devenir le nouvel Electronic Arts en termes de réputation. D'après moi, ils ont raison. Parce que je veux dire, cette année, pour moi, ceux qui ont fait le plus de boulettes, ceux qui se sont le plus foutus de la gueule des joueurs, c'est pas Electronic Arts, c'est Ubisoft. Ils ont faux sur toute la ligne, pour moi.
Ouais, mais comme tu dis, la seule sanction qui est possible aujourd'hui, c'est de pas acheter leur jeu. Alors, et aujourd'hui, Assassin's Creed de Unity, il est en tête des ventes Steam, donc voilà. Est-ce qu'il y aura une vraie sanction?
Après, je sais pas si le démarrage a été si phénoménal de ça, parce que je rappelle quand même qu'un jeu qui a à peu près 5 ou 6 ans, donc Valkyria Chronicle, qui est sorti cette semaine, a été quand même devant sa screen Unity pendant 2 ou 3 jours. Pour moi, c'est inquiétant, si tu veux. Surtout que sur Steam, les meilleures ventes, c'est pas un nombre de copies, c'est un revenu, en fait. Donc ça veut dire que Valkyria Chronicle, qui était à 20€, générait plus de revenus qu'un jeu à 60.
Voilà, faudra surveiller les chiffres, les prochains chiffres d'Assassin's Creed, mais bon, ouais.
Dans tous les cas, vous râlez, c'est bien, les gens, mais à un moment donné, faut passer aux actes. Donc là, Assassin's Creed Unity, vous êtes au courant. La prochaine fois, faudra peut-être pas acheter le jeu, tout simplement, ou alors attendre les soldes. Je sais pas. C'est peut-être une riche idée, tu vois.
Mais en fait, comme moi, le payer vraiment pas cher.
Non, parce que, fondamentalement, si tu payes vraiment pas cher comme toi, tu donnes l'argent, il va quand même dans les caisses d'Ubisoft, à un moment donné. Donc, ils s'en foutent, hein.
Ouais, mais bon, tu t'en fous, t'as mis 10 balles de ta poche,
oui.
Donc.
Enfin, non, je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, tu t'en fous pas parce que tu soutiens une politique commerciale en faisant ça. Enfin, pour moi, c'est l'objectif de la démarche, si tu veux. À un moment donné, si tu penses qu'il y a des pratiques qui sont scandaleuses, t'achètes pas un jeu Day One en donnant de l'argent à un studio qui fait ça, quoi. Même si t'as des réductions dessus, hein. Pour moi, c'est une question de cohérence, si tu veux, quoi.
Et je voulais rajouter quoi par rapport à ça? C'était, Assassin's Creed Rogue, il y a toujours pas de test qui a été publié, alors qu'il sortait le même jour que Unity. Donc, faites attention, pour celui-là aussi.
Ah, il est sorti, celui-là?
Il est sorti le même jour que Unity, mais bon, il était tellement, éclipsé par Unity que, on en a pas entendu parler.
T'es sûr qu'il est sorti?
Oui, oui, il est sorti le 13 novembre, le même jour.
Il me semblait qu'il sortait plus tard, mais
oui, il me semblait aussi.
Non,
c'est sorti le 13, ouais.
C'est pour ça.
Ah, il sort deux Assassin's Creed en même temps, en plus, maintenant. C'est.
Bah, en fait, avant, non.
C'est quoi l'idée derrière le concept, là?
À la base, il devait sortir le 11. Enfin, Rogue, il devait sortir le 11 et Unity le 13, je crois. Et puis, ils ont décalé les deux le même jour.
Bah ouais, c'est vrai que Rogue, on en a pas entendu parler. Bon, c'est vrai que c'est un jeu old-gen, mais quand même, quoi.
Ouais, c'est pour ça, faites attention pour, si le jeu est pas foiré à ce niveau-là. Enfin, je sais pas.
Voilà, c'est tout pour l'actualité du jeu vidéo. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter sur le cas Ubisoft, qui se débrouille très bien tout seul pour se descendre, n'est-ce pas ? Nous allons passer à la suite, et nous allons terminer ce podcast par un point culture. Et ce point culture, c'est sur un manhwa, donc un manga coréen, n'est-ce pas ? Ça s'appelle « Ruler of the Land ». C'est dans un espèce d'univers... coréen médiéval, si vous voulez. Et ça raconte l'histoire de Bikwang. Bikwang, qui, outre le fait que c'est un putain de dragueur invétéré, est un apprenti en arts martiaux. Alors attention, quand je dis apprenti, c'est pas genre le mec il a 10 ans et machin, non. C'est plutôt le mec, tu vois, il a 20, 25 ans, il a un peu de bouteille, etc. Voilà. Grosso modo, ce mec, c'est un petit génie en fait. C'est-à-dire que en arts martiaux finalement, il y connaît pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il connaît une seule technique.
Super.
Mais par contre, il la connaît bien. Hein. C'est-à-dire que c'est en gros, c'est une technique, si vous voulez, qui permet de faire des bonds absolument gigantesques. Mais il la maîtrise bien, quoi. Par contre, pour le reste, voilà, quoi. Et donc, ce Bikwang va rencontrer un certain Warren. Donc, Warren, qui est un peu le mec en mode beau gosse, qui maîtrise super bien le combat à l'épée, etc. Il va voir, en discutant avec lui, une peinture de sa sœur, et il va lui demander de la présenter, en échange d'un service, parce que il faut savoir que Warren est à la recherche de son grand-père, en fait. Et que du coup, ben, ce grand-père-là, c'est un espèce de grand maître en arts martiaux, etc. Et le mec a disparu, et il se trouve que Bikwang possède un tome qui a appartenu à ce monsieur-là, ce qui indique que a priori, il connaît ce monsieur. Donc, il lui a dit, écoute, moi, je veux bien t'aider à chercher ton grand-père, mais en échange, tu me présentes ta sœur quand même, parce que, voilà... En fait, si vous voulez, ce personnage-là, c'est un peu le Nicky Larson des temps médiévaux, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui passe, il saute dessus, quoi.
Mais est-ce qu'il se mange autant de râteaux que Nicky Larson?
Ah oui, oui, il se mange autant de râteaux. Il est à peu près aussi impopulaire, quoi. C'est-à-dire que il saute sur tout ce qui bouge, mais tout ce qui bouge, il fout des claques dans la gueule, quoi, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que débute l'aventure, sachant que en fait on va assez alors je spoil rien, je veux dire c'est le premier tome, on va assez rapidement découvrir que Warren en fait c'est la fameuse sœur en question. C'est-à-dire qu'en fait c'est une nana qui est habillée en mec et que t'as plein de situations de quiproquos comme ça qui vont s'enchaîner et voilà, c'est comme ça que débute l'aventure de Ruler of the Land. Et c'est comme ça que débute cet excellent manhwa que je vais vous recommander. Pourquoi ? Parce que... Alors, il faut savoir que c'est fait par le même auteur qui a fait le manga d'arts martiaux The Breaker. Mais c'est pas avec le même artiste. Et Ruler of the Land, en fait, c'est un espèce de mélange, si vous voulez, entre des arts martiaux et classiques, mais aussi un peu de fantasy, parce que ça ressemble un peu à de la magie, en fait, ce qu'ils font. Si vous voulez, The Breaker, c'est un peu le pendant contemporain, réaliste de ce manhwa-là. Et en fait, là, si tu veux, comme ils sont dans un univers médiéval, ils sont permis pas mal d'excentricité, et ça va assez rapidement virer à la magie, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début, ça paraît vachement réaliste, etc., mais plus le manhwa va avancer, et plus, en fait, on va avoir des scènes totalement spectaculaires où les mecs, ils vont se mettre à faire des trucs, on dirait des kamehameha ou des trucs comme ça, enfin, c'est totalement délirant. Et c'est un manhwa, si vous voulez, qui marie merveilleusement, je trouve, la narration d'un côté. Mine de rien, sous ses côtés marrants, t'as une histoire qui est assez sérieuse quand même. L'auteur a un talent certain pour créer des liens entre les personnages. C'est-à-dire que Warren et le personnage principal, le Bikwang, vous l'aurez deviné, ils vont assez rapidement tomber amoureux l'un de l'autre, etc. T'as la relation qui va se développer. Vraiment, l'auteur sait raconter des histoires, quoi. C'est-à-dire que quand il introduit un personnage, il arrive à lui donner du corps, quoi, en quelques pages, tout de suite. C'est quelqu'un, si tu veux, qui rapidement va donner du caractère, de la bouteille à un perso, quoi. Et ça, c'est d'autant plus fort, si tu veux, que mine de rien, c'est un manhwa qui est truffé de combats. Mais vraiment, ça je vous préviens, si vous n'aimez pas les œuvres très orientées à action, je vous le déconseille, parce que c'est vraiment assez chargé à ce niveau-là. Peut-être même trop sur les derniers volumes. D'ailleurs, c'est une critique que je ferai d'une manière générale au manhwa. C'est-à-dire que je trouve que sur les derniers volumes, il faut savoir qu'il y en a 50. Donc, et c'est pas fini, hein, donc ça continue. Il y en a 50. Et sur les derniers volumes, en termes de combat, c'est vraiment très long, quoi. Et heureusement, l'auteur a toujours ce talent derrière pour réussir à glisser des séquences d'histoires, de flashbacks, etc., à développer, à lier la sauce entre les différents personnages. Et franchement, c'est très très agréable à lire. Et si vous aimez les mangas pas orientés action, mais que d'un autre côté, vous aimeriez bien avoir quelque chose qui raconte quand même un peu une histoire et qui a des personnages un peu matures, etc., je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Messieurs, des questions peut-être ? Je ne sais pas.
Bah, déjà, est-ce qu'il est sorti en France ou pas ?
Ah, pas du tout. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est 100% scan. Et même, j'ai envie de dire, c'est 100% scan anglais.
Anglais, ouais.
C'est-à-dire que il me semble pas avoir vu des trades françaises. C'est d'ailleurs bien dommage parce que... alors, j'ai pas parlé de la direction artistique, etc. Mais si tu veux, il y a un taf qui est absolument énorme dessus. Et ça mériterait d'avoir une localisation française, pour le coup.
Mais du coup, l'anglais, c'est l'anglais quand même assez simple. Il n'y a pas de l'anglais médiéval, entre guillemets.
Non,
ça se lit facilement quand même, quoi.
Je veux dire, ceux qui traduisent ça, c'est des c'est des traducteurs qui sont comme vous et moi, et ils ont pas la prétention à faire des traductions. Voilà, c'est des traductions assez simples.
Ouais, c'est abordable.
Voilà, c'est abordable.
Est-ce que c'est quand même mature ou pas comme univers, ou bien c'est pas du tout type shonen en fait, j'ai l'impression.
C'est typé shonen par certains côtés, en ce sens que tu as une vraie progression du héros. Et c'est peut-être même un des défauts du manga aussi, à savoir que au début c'est le héros est très très intéressant parce que
il est nul.
Si tu veux, il est nul quoi. Et en fait, comme c'est un génie, si tu veux, alors il y a une progression du héros qui est plutôt bien équilibrée, je trouve, jusqu'à maintenant. Mais par contre, j'ai très peur pour la suite parce que il devient de plus en plus OP quoi. Et j'ai peur qu'à la fin il soit tellement OP en fait qu'il y a à peu près rien qui lui résiste. Alors après, à côté de ça, tu sais, t'as le classique attention, j'ai un pouvoir tellement fort que je le maîtrise pas et que je deviens contrôlable. Mais pour le coup, qui est assez bien géré, mais c'est un classique du shonen, ça aussi. Hein, je veux dire, c'est comme ça dans Naruto avec Kyuubi, ou enfin voilà.
Dragon Ball, etc.
Mais pour le coup, c'est assez. Je trouve ça assez bien traité quand même. Mais justement grâce au ton mature, c'est-à-dire que généralement le problème des mangas à ce niveau-là, c'est que cette question du pouvoir incontrôlable, elle est assez mal gérée parce que finalement c'est le truc qu'on appelle, c'est le Deus Ex Machina qu'on appelle pour gérer une situation où le mec peut pas gagner. Alors c'est géré là aussi comme ça malheureusement sur certains combats, mais à côté de ça. C'est une occasion, je trouve, pour développer les personnages dans le bon sens. Chose qui manque, je trouve, dans pas mal de shonen, où finalement c'est juste un Deus Ex Machina et on s'arrête à peu près là, quoi. Déjà, le casting, l'âge moyen, je pense, ça doit être 25-30 ans, quoi, si c'est pas plus. Il y a une certaine maturité des protagonistes qu'on ne retrouve pas dans la plupart des manoirs, des shonen. C'est-à-dire qu'ils pensent à se marier, etc. Enfin, c'est des gens, si tu veux, qui ont des problématiques existentielles d'adultes. Et on n'est pas dans la quête du voyage initiatique au sens classique du terme, où t'as un enfant qui apprend à passer à l'âge adulte, en fait. Là, c'est pas du tout le cas. On a déjà des adultes plus ou moins accomplis. Ils vont essayer de s'accomplir par d'autres choses, quoi. D'autres objectifs dans la vie, etc., quoi.
En fait, ça s'adresse plus à un type de public comme nous que des adolescents, en fait.
En fait, ça s'adresse, je pense, à des gens qui apprécient les shonen, mais qui sont eux aussi en train de devenir adultes, mais qui ont envie de s'amuser aussi à avoir des gens qui se bastonnent, quoi, tout simplement.
Ouais, c'est parce que moi, c'est par exemple mon cas, c'est je pense que je peux être la cible de ce truc-là parce que voilà, les mangas, quand j'étais petit, voilà, je kiffais vraiment ça, mais en grandissant, tu vois que les situations ça se répète et puis d'avoir toujours le classique c'est le héros jeune qui va devenir adulte en accomplissant pas mal de tâches. Bon, j'ai déjà vu et puis tu sais ça ces problématiques-là, elles me parlent beaucoup moins maintenant, même si j'apprécie toujours le genre, mais c'est pour ça que je me demandais si c'était vraiment plus développé, plus mature, pour que peut-être que j'y jette un coup d'œil.
Oui, voilà, parce que en plus ce que je trouve intéressant si tu veux, c'est que par exemple, le héros est fascinant pour moi. C'est-à-dire que en fait le mec d'apparence comme ça, c'est un débile. C'est-à-dire que des fois il a des réflexions, il accepte des marchés, mais tu sens qu'il est en train de se faire arnaquer, ce genre de choses. Mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que le héros a un certain talent pour se faire passer pour un crétin, mais en fait il est très intelligent.
C'est Colombo quoi en fait.
Ouais. C'est-à-dire que voilà, il va se mettre des fois dans des situations volontairement. Il fait exprès de se faire sous-estimer par ses adversaires et après c'est lui qui gagne à la fin quoi en fait. Et c'est le mec vraiment qui a plusieurs coups d'avance quoi. Bon, pour le coup par contre on perd pas mal ce côté-là au fur et à mesure du manoir, je trouve, c'est-à-dire que de plus en plus il devient beaucoup plus réfléchi, calculateur, etc. Et le côté débile, on le voit beaucoup moins. Bon, après, ça fait partie de l'évolution logique, je pense, du personnage. Mais vraiment, c'est un personnage qui est très intéressant. En plus, allié au côté coureur de jupons, plus le fait qu'il y a des moments où il est vraiment classe. C'est-à-dire que, justement, c'est le mec, il sait déconner, tu vois. Mais quand il faut être sérieux, il sait être sérieux aussi, quoi. Et c'est ça que je trouve très bien et qui change justement de la plupart des héros de shonen classiques, où finalement on a des débiles profonds qui le restent jusqu'à la fin et qui le sont, mais vraiment quoi. Et que tu te demandes, mais ils sont tellement débiles, mais en fait, comment ils font pour avoir le statut qu'ils ont dans le manga quoi. Voilà. Donc, plus d'autres questions messieurs ?
Non, moi c'est... On a fait le tour, mais c'est vrai que ça fait penser un peu à du Nicky Larson aussi, quoi. comme tu le présentes, voilà, sur certains aspects.
Sachant que j'ai pas parlé du personnage féminin, mais enfin c'est pareil, elle est super bien développée. Mais le truc, c'est que en fait, moi, ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que au départ, le manoir fonctionne sur le duo entre les deux personnages. Parce que forcément, ils ont une relation ambiguë, je veux dire, au départ, ils pensent que c'est un mec, puis ils découvrent que c'est une nana, puis ils commencent à tisser des liens, au départ, il n'est pas amoureux de lui, puis enfin, voilà. Ça, au fur et à mesure, il y a cette relation qui se tisse. Puis dans les derniers tomes, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que, au bout d'un moment, elle disparaît, quoi. Alors, je sais pas si elle revient par la suite, j'espère, parce que moi, j'adore ce personnage. Et du coup, on passe progressivement d'une relation en duo qui était vachement intéressante, parce qu'en plus c'était aussi le ressort comique du manoir, etc. Alors peut-être qu'ils l'ont fait disparaître volontairement justement pour renouveler un peu la sauce. Alors j'espère pour le coup qu'ils rajouteront d'autres personnages, etc. Mais elle est très intéressante et en plus elle est pas potiche, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle sait se battre, quoi. C'est-à-dire qu'elle fout des mandales et quand elle en fout, elle les fout bien, quoi. C'est pas genre la nana qui fait de la figuration, tu vois. Même si il y a certains moments, justement, encore une fois, dans les derniers tomes, bizarrement, où il commence à faire un peu de figuration et ça me gêne un peu. Voilà.
Et on peut pas parler de ça sans finir sur l'aspect fan service de la chose. Est-ce qu'il y a des petits moments boobs ou bien petite culotte? Je sais que les jeunes auditeurs, ils aiment bien ce genre de choses.
Oui, mais c'est pas non plus. Il y en a au début, mais c'est pas vulgaire, quoi, si tu veux.
C'est comique.
C'est même pas. Il y a des moments où, par exemple, si tu veux, il y a une nana qui sort du bain ou c'est. Mais c'est pas genre, tu vois, dans la plupart des machins, on va te mettre la nana dans une position ultra sexy, exagérée, etc. C'est genre à un moment donné, il tombe sur une nana qui est à poil. Bon, elle est à poil, certes, mais c'est dessiné, si tu veux. Je sais pas comment dire ça, mais naturellement, quoi. C'est-à-dire que elle prend pas la pose, tu vois. Oh, je suis trop belle. Enfin, tu vois, ou pour bien mettre en avant la poitrine. Enfin, il y a effectivement des séances boobs, certes, mais c'est pas le sujet, quoi. Pas du tout. Voilà, voilà. Bon, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là.
Hein. Ouais. Ouais.
On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, messieurs dames. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.